Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Reportage à Beni, au Nord Kivu, dans un centre de traitement de l'épidémie d'Ebola. Reportage signé Patricia Huon. La transition au Soudan avec aujourd'hui la signature historique d'un accord constitutionnel par le Conseil militaire et les instances civiles. Précision d'Omar Waman. L'apparition lors de la fête nationale d'Ali Bongo, 10 mois après un accident vasculaire cérébral, est-elle de nature à couper court aux rumeurs sur de ses réelles capacités à gouverner? Élément de réponse, Sébastien Berriot. Également au sommaire, un rassemblement à Hong Kong des sympathisants du pouvoir et soutien des forces de police. Et puis en France, les associations de lutte contre l'homophobie rassérénées par la décision hier soir de l'arbitre de la rencontre de football Nancy-Le Mans d'interrompre brièvement le match abîmé par des chants homophobes. À chaque confirmation d'une contamination au virus Ebola, l'inquiétude l'emporte et se répand comme une traînée de poudre. Il y a 2 jours, le gouvernorat du Sud Kivu dénombrait 2 patients atteints de fièvre hémorragique. L'un des deux est décédé. Les autorités de la province ont immédiatement tenté de rassurer les populations autant que faire se peut. Les 2 victimes viennent en effet de Beni et si l'épidémie gagnait le Sud. C'est justement dans ce Nord Kivu que s'est rendue Patricia Huon de RFI pour nous faire parvenir un des rares reportage effectué au front de la lutte contre Ebola dans un centre de traitement des malades.
Au centre de traitement Ebola à Beni, des chambres d'urgence biosécurisées sont utilisées. Des cubes de plastique qui permettent d'observer le patient de l'extérieur, de lui parler et même d'effectuer certains traitements sans devoir entrer dans la pièce, explique le docteur sympathique Kayani.
On peut suivre son état général de l'extérieur par le moniteur et aussi par la paroi plastique. Si par exemple je veux changer une perfusion, j'introduis mes bras à l'intérieur de 2 gants, on ne va pas porter toute une combinaison. Si le patient peut parler, ils peuvent dialoguer avec leur familier et ils le voient de l'extérieur, ça rassure un peu le patient.
Le taux de guérison au centre de traitement est désormais de 60 à 70%. Malheureusement pour les patients déchargés, ils doivent souvent faire face à la stigmatisation de leur communauté.
C'est un certificat de décharge pour dire que je suis guéri. On dit à la date d'émission de ces documents, les porteurs de ce certificat ne présentent pas de risque de contaminer d'autres parce que ce test a été négatif pour la maladie à virus Ebola.
Même si les traitements s'améliorent, la méfiance et les rumeurs persistent. Beaucoup de personnes craignent de se rendre au centre de traitement. Le nombre de malades qui meurent chez eux reste important et la chaîne de transmission se poursuit.
D'autres reportages de Patricia Huon de RFI dans nos éditions demain matin présentées par Laura Dulieu. Au Congo-Brazzaville, une plateforme d'organisation de la société civile exige la levée de l'immunité parlementaire et l'ouverture d'une enquête contre 2 députés, le fils et la fille du président Denis Sassou Nguesso, tous 2 accusés de détournement de fonds publics. Il aura fallu de multiples médiations impulsées par l'Éthiopie, des semaines et des semaines de négociations entre les forces de la liberté et du changement et le Conseil militaire de transition, sans oublier les efforts de l'Union africaine pour sortir le Soudan d'une passe dangereuse. Depuis décembre dernier, la révolte du prix du pain, il y eut en avril la destitution d'Omar el-Béchir, dont le procès pour corruption s'ouvre aujourd'hui, et puis en juin, une sanglante répression, et puis cet accord constitutionnel dont vous nous livrez les grandes lignes, Omar Waman.
C'est une journée historique que les Soudanais ont vécue ce samedi. Après plus de 8 mois de contestation réprimée dans le sang, 250 morts et des centaines de blessés. La détermination des manifestants a d'abord eu raison de la dictature du président Omar el-Béchir, avant de faire plier les généraux de l'armée soudanaise qui ont fini par accepter de transférer progressivement le pouvoir aux civils. L'accord conclu aujourd'hui à Khartoum prévoit d'organiser dans le détail la transition qui devrait durer pas moins de 39 mois. Dès demain, le Conseil militaire sera dissous et remplacé par une présidence tournante issue d'un conseil souverain composé de 5 militaires et de 6 civils. Dans 3 jours, le 20 août, un premier ministre sera désigné. Il aura la lourde tâche de former un gouvernement dont les postes clés resteront réservés aux militaires. Une nouvelle constitution sera rédigée et si le partage du pouvoir entre militaires et civils se déroule comme prévu, des élections générales seront organisées en 2022. Mais en attendant, le nouveau gouvernement devra sortir le pays de la crise économique à l'origine du mouvement de contestation.
À Paris, apparition très attendue aujourd'hui au Gabon. Le président Ali Bongo a assisté au traditionnel défilé militaire organisé à Libreville à l'occasion de la fête nationale. Le chef de l'État n'était quasiment plus apparu en public depuis son accident vasculaire cérébral il y a 10 mois, suscitant bien des rumeurs et des critiques sur sa capacité à diriger le Gabon. Bonsoir Sébastien Berriot.
Oui, bonsoir.
Sébastien, l'apparition de ce matin à Libreville a peut-être rassuré, mais n'a pas dissiper tous les doutes.
Oui, effectivement. Alors, pour beaucoup de Gabonais, la cérémonie de ce matin sur le front de mer de Libreville était d'abord une preuve de vie, car depuis plusieurs mois, certaines rumeurs circulaient avec insistance au Gabon, donnant le chef de l'État pour mort. Ce matin, donc, de nombreux habitants de la capitale ont tenu à faire le déplacement pour voir le président Bongo de leurs propres yeux. Un chef de l'État bien vivant, mais qui est apparu très affaibli. Ali Bongo, 60 ans, a marché lentement avec difficulté devant la tribune officielle en s'appuyant sur une longue canne. Pas de quoi rassurer vraiment. Depuis son AVC en Arabie Saoudite en octobre 2018, le président a été complètement absent du pouvoir. Une longue convalescence au Maroc. D'abord, il est ensuite rentré à Libreville au mois de mars. Mais depuis, quasiment aucune activité officielle. Ali Bongo, qui aimait les bains de foule et les discours avant son accident, n'est presque pas sorti de son palais présidentiel. Les prises de parole ont été très rares, toutes en tout cas préenregistrées et diffusées ensuite à la télévision. Sur l'une d'entre elles, le président peine à s'exprimer et apparaît clairement malade, le regard vide. L'entourage a bien tenté d'utiliser les réseaux sociaux en diffusant en permanence des photos montrant le président en train de travailler et de recevoir des chefs d'État africains, mais sans convaincre. L'opposition, qui n'a toujours pas digéré la réélection d'Ali Bongo en 2016, n'a pas hésité à s'engouffrer dans la brèche, évoquant une vacance du pouvoir. Plusieurs personnalités de l'opposition ont même déposé un recours devant la justice gabonaise pour contraindre Ali Bongo à se soumettre à un examen médical pour déterminer si le président est ou pas en capacité de diriger le pays. La cour d'appel de Libreville doit examiner cette affaire le 26 août.
Merci à vous Sébastien Berriot. Le ministre italien de l'Intérieur condescend à autoriser le débarquement du navire de l'ONG Open Arms à l'ancre depuis des jours au large de l'île de Lampedusa. Le débarquement de 27 mineurs non accompagnés. Depuis des jours, l'ONG demande à accoster. Les personnes secourues au large des côtes libyennes il y a 2 semaines n'en peuvent plus de ce statu quo. Antonino Gallofaro nous appelle de Rome.
Matteo Salvini a cédé. Cette fois, il a écouté son chef, le Premier ministre Giuseppe Conte. Il a accepté de faire descendre les mineurs présents à bord de l'Open Arms. Mais pas tous les mineurs, attention, seulement les 27 mineurs non accompagnés. C'est l'ONG espagnole qui s'empresse de le préciser. Ils ont quitté le navire peu après 17h. Le chef de la Ligue ne le communique pas en grande pompe sur ses réseaux sociaux comme il le fait d'habitude. Sur Twitter, aujourd'hui, on le voit plutôt en pantalon court, torse nu au milieu de fleurs de courgettes. Il fait part de sa décision au président du Conseil par communication privée. Et malgré lui, écrit-il, pour donner exemple de sa collaboration loyale. Giuseppe Conte l'avait en effet rappelé à l'ordre il y a 2 jours et prié de ne plus faire campagne électorale sur le dos des migrants malgré la crise politique. Il s'agit d'une sorte de nouvelle défaite pour le ministre de l'Intérieur. Cette semaine, la justice a rejeté l'un de ses décrets d'interdiction d'entrée en eaux italiennes contre l'Open Arms et quand il en a émis un nouveau, la ministre de la Défense a refusé de le signer. Toujours plus d'une centaine de personnes sont à bord du navire de l'ONG bloqué au large de Lampedusa depuis 16 jours. 6 pays européens dont la France ont accepté de les accueillir.
Échange de tirs qualifié d'intense au Cachemire. Le Cachemire, unique État indien à majorité musulmane, revendiqué par le Pakistan, a été privé de son autonomie par New Delhi le 5 août dernier. New Delhi qui a rétabli il y a quelques heures les communications téléphoniques terrestres dans certaines régions de ce territoire himalayen. À la veille d'une nouvelle manifestation des militants pro-démocratie dans le parc Victoria de Hong Kong, des milliers d'enseignants ont affiché leur soutien avec les contestataires. Les sympathisants du pouvoir et de la police, réunis eux dans le même temps sur l'autre rive de Victoria Harbour, étaient eux bien plus nombreux, 300 000 selon les organisateurs de cet autre rassemblement. Valérie Crova, notre envoyée spéciale, est allée à leur rencontre.
Elles sont 3 femmes. L'une travaille à l'hôpital, l'autre est femme au foyer, la 3e est enseignante. Elles ont apporté un journal sur lequel on peut lire des slogans en cantonais. Contre la violence et pour sauver Hong Kong. Plus de troubles. Pour nous tous, ça suffit. Arrêtez les divisions. C'est la première fois qu'elles manifestent pour soutenir le gouvernement de Hong Kong, nommé par Pékin. La Chine, dont les manifestants pro-démocratie dénoncent l'emprise de plus en plus forte, mettant en péril les libertés propres aux Hongkongais. Ce n'est pas du tout l'avis de cette femme. La Chine est bonne pour nous, vous voyez. Depuis 1997 et jusqu'à présent, la Chine a progressé. Les politiciens et beaucoup d'autres choses se sont améliorées. Pense-t-elle que la chef de l'exécutif local, Carrie Lam, devenue la bête noire des manifestants, devrait démissionner? Mais pourquoi devrait-elle démissionner? Peut-être plus tard, mais pas maintenant. La chose la plus importante est de régler toute la violence. Des drones survolent le parc où se tient le rassemblement, filmé par la télévision chinoise. Au moment où l'hymne de la République populaire de Chine retentit, les participants se figent et reprennent l'hymne en chœur.
Valérie Crova avec les moyens techniques de Jérémy Thuil à Hong Kong. Contrairement au dernier samedi marqué par des centaines d'arrestations, Moscou a connu une journée très calme. Les piquets de protestation des libéraux comme le rassemblement autorisé et organisé par le Parti communiste pour réclamer des élections justes et honnêtes n'ont pas déplacé les foules. C'est une correspondance de Moscou de Jean-Didier Revoin.
Une multitude de drapeaux rouges flanqués de la faucille et du marteau flottait au-dessus des 4 à 5 000 participants au meeting du Parti communiste sur l'avenue Sakharov, une avenue bien clairsemée, une semaine après que 50 000 moscovites ont répondu à l'appel des libéraux. Pavel Lavintaine a son explication.
L'électorat du Parti communiste de la Fédération de Russie diminue naturellement. Il meurt en raison de leur âge. Et la jeune génération ne soutient pas les communistes.
Si le Kremlin entendait faire baisser les rangs de l'opposition libérale en utilisant les communistes, c'est un échec. Malgré l'enthousiasme des militants du parti, comme Tatiana.
Je suis contre la politique du gouvernement, contre les élections frauduleuses, parce que c'est insupportable de juste attendre et regarder ce fouillis, ces actes abominables. Chaque homme décent et honnête doit agir de cette manière.
L'opposition libérale s'est elle aussi montrée plutôt discrète. La mairie de Moscou avait interdit tout rassemblement, raison pour laquelle, conformément à la loi russe, quelques protestataires se sont munis d'une pancarte en prenant soin d'observer entre eux une distance de 50 mètres, sous l'œil attentif de la police. Mais la mobilisation de ces dernières semaines n'était pas au rendez-vous, les opposants attendant sans doute d'autres manifestations à venir d'ici les élections de septembre.
Il est 18h12, vous écoutez le journal de France Culture. La décision du corps arbitral d'interrompre un match de Ligue 2 de football, sali par des chants homophobes, c'était hier soir lors de la rencontre Nancy-Le Mans, a été salué ce matin par la ministre des Sports. C'est la première fois en effet qu'un match est arrêté en pareilles circonstances et c'est encourageant aux yeux de Johan Lemaire, président de l'association Foot Ensemble, dont la raison d'être est de lutter contre l'homophobie dans le sport.
Je suis rassuré parce que ça démontre bien que ce soit la LFP, les ministères ou les arbitres et les gens sur le bord du terrain, qu'on appelle les délégués, veulent faire avancer le débat et c'est une bonne chose.
Est-ce que vous pensez que ça peut amener certains supporters à réfléchir?
Oui, ça peut faire réfléchir les gens, parce qu'au moins on ouvre le débat. On dit, voilà, ce que vous chantez là, c'est nul, c'est pas bien, c'est ordurier, c'est homophobe. Et on peut faire un rappel à la loi aussi, pour expliquer aux gens que c'est pareil que le racisme ou autre discrimination. Donc, c'est quand même pas grand-chose d'arrêter le match 2 minutes. Au moins, ça permet d'en parler, les médias en parlent, et on peut se remettre en question. Ça fait partie de la sensibilisation de se dire, là c'est minable, c'est ridicule ce qu'on fait, donc il faut en parler. Par contre, ce qui manque cruellement, c'est des idées et des budgets. Parce que faire de la communication dans les médias, dire que l'homophobie c'est pas bien, on est tous d'accord. Mais maintenant on fait quoi? C'est ça le problème. C'est quand nous on arrive avec des petites idées, des kits pédagogiques, des serious games, de la formation, intervenir dans un centre de formation, on vous répond souvent, très très souvent, oui mais il n'y a pas de budget. C'est un sujet qui est réellement tabou dans le milieu du football.
Des propos recueillis par Ariane Grissel. La bataille de Paris était alors amorcée. Malgré les efforts des forces françaises de l'intérieur, le 17 août 1944, le dernier convoi de déportés partait du camp de Drancy, 53 hommes, femmes et enfants, envoyés au camp de concentration de Buchenwald. Parmi eux, Simon Ziegler, 42 ans à l'époque. Son petit-fils, Simon Masbaum, est aujourd'hui venu honorer sa mémoire, justement au mémorial de la Shoah à Paris. Il a tenu ce matin à citer lui-même le nom de son grand-père pour la première fois.
C'est beaucoup d'émotion parce que je pense que ça devait être, comme tous, un homme admirable. Je porte son prénom et le fait d'évoquer enfin son nom... Ça me fait un bien incroyable, incroyable. J'espère le faire pour d'autres membres de ma famille. Ça a été long, mais maintenant je pense que ça y est, je peux le faire. Les citer, c'est tout faire pour qu'ils sortent de l'anonymat. Anonymat dans lequel les nazis et leurs complices ont tout fait pour qu'ils y restent, non seulement en détruisant toutes les chambres à gaz, en détruisant toutes les preuves. Citer leur nom, c'est montrer qu'ils ont existé et qu'ils existent toujours. En tout cas, leur âme est toujours présente.
Quelques mots de la météo de demain dimanche. Temps encore perturbé sur une grande partie du pays, souvent nuageux, pluvieux et localement orageux. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto, à la technique Jordan Fuentes.